Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui en compagnie du Gruff, le Gruff, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Nous sommes également avec Anan, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Flavie Brillant.
Tes lancements ressemblent de plus en plus à un petit côté fête foraine.
Oui, tout à fait.
C'est la fête maintenant. En même temps, c'est Gruff.
Hein, avec un maximum d'émotions.
Le métro le matin, hein. On sait où vous êtes là en ce moment, chers auditeurs, mais nous... On est là pour égayer votre matinée avec Morgane aussi. Morgane, bonjour.
Bonjour.
J'ai participé à cette folle partie de Cerbère. On a playtesté le système, testé même, puisque le jeu est sorti, le système générique pour jouer des... Alors, comment tu décrirais toi-même ce qu'on joue avec Cerbère ?
Alors, c'est un semi-générique. Donc ça sert, c'est un générique.
Semi-générique, mais... parce qu'on va en parler.
Ouais. Qui est orienté sur l'aventure sérieuse.
L'aventure sérieuse.
C'est-à-dire de l'aventure à échelle humaine, où une balle tue, où ça peut faire très mal. Et on n'affronte pas 12 adversaires de la pointe de son épée sur les quais d'une rivière, enfin voilà.
C'est pas du KPDP.
Et il y a même une philosophie derrière que j'explique à la fin du bouquin, voilà.
Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer déjà le titre?
Cerbère. Alors, c'est plein de trucs par rapport au le
de façon courte, je te prie. Je sais que c'est difficile, mais il va falloir le
donc,
faire.
Donc l'origine du système de jeu, c'est Radio Victoria. Qui a été la première, qui a été en fait la campagne de test du système, qui a même été en fait, enfin le système a été créé pour jouer à Radio Victoria à ma table de jeu avec mes copains.
D'accord.
Et ensuite, Radio Victoria n'était pas encore sorti, il était toujours en cours d'écriture, mais j'ai utilisé Cerbère pour, je voulais faire du COPS, donc j'ai adapté Cerbère pour faire du COPS. Mais les copains ne voulaient pas faire du COPS, parce que des jeux de flics c'est chiant. Surtout à Los Angeles, et surtout quand le MJ est un peu psychorigide sur les procéduraux américains, etc.
D'accord.
Donc du coup j'ai écrit Les Anneaux Froids des Anneaux de Cerbère, qui est un jeu de flics, mais dans l'espace.
Vas-y, Anna,
le métal froid des anneaux de Cerbère.
Le métal froid des anneaux de Cerbère. Qui est donc un jeu d'enquête de flics, mais dans une station spatiale façon Babylon 5. Voilà.
D'accord.
Avec l'idée de laisser les joueurs créer leur station spatiale et donc créer les règles procédurales auxquelles leurs personnages flics sont soumis. Et donc jouer non pas dans une ambiance pré-écrite où le MJ peut jouer son fasciste, mais un truc où tout le monde accepte de suivre des règles de société, mais que les personnages, enfin les joueuses ont créé elles-mêmes.
Alors donc du coup, plutôt que de laisser ce système pourrir dans un classeur, tu t'es dit bah voilà, j'ai utilisé ce système pour jouer à tous ces jeux et je vais l'éditer. Donc c'est publié sur lulu.com.
Ouais.
Comme la plupart de tes travaux. J'invite d'ailleurs les auditeurs à bien surveiller lulu.com parce que cet homme est prolifique, mais qu'il ne le communique pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses à sortir sur Lulu, mais il faut surveiller un petit peu ce qui se passe. Donc Cerbère, en fait, moi je l'ai découvert par hasard sur Face de Book, je crois. Et voilà, et donc c'est un des seuls que j'ai vu passer de LG. Sinon, il y a plein de choses qui sont sorties là. Il y a le vaste monde, il y a la frontière. Tu as sorti pas mal de bouquins en couverture cartonnée. Aujourd'hui, ouais, c'est ce
l'année dernière, il y avait Tech Noir qui est sorti il y a juste un an.
Tech Noir, ouais.
Ouais.
Tech Noir. En référence au bar dans Terminator.
Je ne sais pas.
Tu sais pas,
ouais. Je ne sais plus. C'est la traduction d'un jeu américain, d'un jeu de cyberpunk hard boiled.
Parce que voilà. Nous, ça nous a toujours fait rire, ça, dans Terminator 2, quand la nana appelle « Je suis au Tech Noir !»
C'est peut-être de là, mais comme je n'ai pas vu Terminator depuis très longtemps,
tu feras attention, tu verras, il y a une pub pour ton jeu dedans. Cool. Alors, ok, très bien. Alors maintenant, on va parler de Cerbère. Est-ce qu'on pourrait faire rapidement un petit tour de table pour parler un petit peu des personnages? Anne, quel était ton personnage?
Alors, elle s'appelait Marie-Eugénie Verdurin.
Alors,
et c'était une veuve de guerre et fondatrice d'une congrégation hospitalière pour venir en aide.
Alors la première petite remarque,
victimes.
C'est vrai qu'avec ta description, on pourrait s'attendre à ce qu'on puisse, on joue de la SF ou du cyberpunk ou du Shadowrun-like, etc. Là, on était en 1915
voilà.
En France, à Paris, en pleine Première Guerre mondiale.
Exactement.
Déjà, on a attendu un petit peu. On chuchote à l'oreille de Grumf. Flavie, prends le micro, qu'est-ce que
oui.
Tu jouais?
Moi, je jouais une journaliste qui s'appelait Louise Lanet, parce qu'on ne voulait pas l'appeler Lois Lane avec Anne. Donc, elle est devenue Louise Lanet. Et voilà, c'est une journaliste avec l'impair dont elle relève le col pour aller en filature. Voilà, avec tous les stéréotypes que ça suppose, surtout en 1915.
Morgane, alias Germaine. Alors, parle-nous de ton personnage.
Moi, j'étais Germaine Lafitte, fille de cafetier, un peu anarchiste et surtout taxi.
D'accord, ok. Entendu. Et donc, cette joyeuse équipe... Ah, j'ai oublié de me présenter. Moi, j'étais gendarme. Je m'appelle les Poulard. Ma mère était... faisait des omelettes au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, j'étais gendarme et à la guerre, j'étais réformé parce que j'avais pris un obus dans la tête qui d'ailleurs y était resté. Ce qui provoquait des problèmes un peu psychotiques à mon personnage. D'ailleurs, il s'est un peu énervé à un moment donné dans le scénario. D'accord. Donc du coup, cette joyeuse équipée partait sur une enquête privée qui nous avait été offerte par le personnage d'Anne, entre autres. Mm-hmm. La disparition de 5 orphelins.
5, je crois.
5 orphelins. Voilà. Alors, par où commencer ? Déjà, peut-être parler des fiches de personnages. Parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours appréciable chez le Grumpf. Ce sont des fiches de personnages.
Tiens, tu veux.
Est-ce que tu pourrais m'en passer une ? Ouais. Alors, donc, ce sont des fiches de personnages qui sont. C'est quoi le format ? C'est du A4 en fait ?
Ouais, c'est du A4.
Mais sauf qu'au lieu d'être séparées par exemple en deux par la tranche au milieu, elles sont séparées en trois et on rabat en fait les côtés de la fiche de personnage. Et donc on se retrouve avec une feuille dépliable. C'est très compliqué à expliquer à la radio, mais en gros, on a une feuille en face de soi qui est la feuille principale où on a les compétences principales. Et quand on l'ouvre, hop, on a derrière les détails du personnage un peu plus en profondeur. Donc ce qu'il maîtrise, donc ça va être des compétences très spécifiques. Les cultures, ça va être ce qu'il maîtrise, mais dans le domaine intellectuel. Ses talents, tu nous as pas dit ce que c'était, mais c'est...
C'est des petits trucs en plus qui aident à définir le personnage. Mais qui sont dans la partie optionnelle du jeu en fait.
Voilà, d'accord.
Ça, comme ça demande un tout petit peu plus de temps pour les joueuses au moment de la création de perso, je garde vraiment ça pour les campagnes ou pour les parties où les joueuses savent déjà, connaissent déjà le truc. Quoi.
Alors rapidement, j'entends que tu parles de joueuses. Est-ce à dire que à présent, tes livres édités vont être en écriture inclusive ?
Alors, c'est pas complètement de l'écriture inclusive, c'est juste que à la base, c'était pour suivre le modèle de Brand et Coralie dans Les Lapins Marteaux, dans leur bouquin sur l'idée d'utiliser les joueuses à la place des joueurs pour parler des participants, mais en disant bien que de la même manière que les joueurs, ça désigne aussi bien des garçons que des filles, les joueuses, ça désigne aussi bien les filles que les garçons.
D'accord, ouais, très bien.
Et là-bas, c'était essentiellement pour ça. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu un petit effet de bord tout à fait intéressant en termes d'écriture. C'est que les joueuses, le personnage, la maîtresse de jeu, le figurant, et du coup, écrire des règles en utilisant ces particules-là permet de garder des chaînes de référence absolument précis, propres. On se mélange plus les pinceaux, on sait tout de suite de quoi on parle et de quand on parle. Et il y a une clarté, une fluidité d'écriture qui est que j'avais jamais atteint jusqu'à présent en termes dans les règles de jeu quoi. Et du coup, c'est vraiment hyper pratique.
Toi qui as toujours la recherche de la simplicité, c'est vraiment quelque chose, un maître mot chez toi. Tu trouves que ça rend les choses plus simples.
Ouais, les règles, c'est déjà chiant à écrire, c'est pas terriblement intéressant à lire. Donc si en plus c'est compliqué, si c'est verbeux, si on comprend pas de quoi on parle, ça devient gênant.
Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que l'écriture ici inclusive te permet de distinguer plus nettement en fait ce qui est de l'ordre de ce qui se passe autour de la table, donc des gens autour de la table et en fait de la fiction qu'ils incarnent. Je vois Anne qui se dirige vers la fenêtre. Oui, il y a un parasite, ça ne vient pas de l'enregistrement, ça vient de dehors. C'est quelqu'un qui passe l'aspirateur dehors. Il s'en passe de drôles de choses à Villaine-la-Juhel. Les gens ne sont pas sains ici. Ils ont perdu de la sane.
Il faut se rappeler que la cellule s'est téléportée aujourd'hui.
Exactement, on est dans le terrier. C'est formidable. J'aime beaucoup venir ici. Alors, Ce qu'il faut dire aussi par rapport à la feuille de perso, c'est que sur les volets qui se rabattent, se trouve en fait l'intégralité des règles du jeu.
Ouais,
quasiment
ouais,
résumé.
Tout est résumé. Les règles, en fait, le résumé est aussi présent dans le bouquin. C'est-à-dire que l'ensemble du bouquin se résume en une page à la fin.
Alors, voilà. Oui, néanmoins, on parle bien d'un système de résolution des actions. C'est-à-dire que ce système, c'est le système de résolution. Pas le système de jeu qui reste le jeu de rôle classique que tu pratiques avec un meneur, des joueurs, etc. pour bien comprendre. C'est le système de résolution qui figure sur la feuille.
Oui, c'est les mécaniques, c'est voilà. Les mécaniques de jeu, mais qui...
Tu n'expliques pas comment jouer à Cerber. La feuille elle-même n'est pas suffisante. Imagine, je connais pas le jeu de rôle, mais suffira pas. Quoi.
Non, mais de toute façon, Cerber, et puis d'une manière générale, les produits Chibi, à part quelques-uns, ne s'adressent pas forcément à des full débutants. Il y a d'autres jeux qui font ça très bien. Et de la même manière, je n'explique pas que c'est du jeu de rôle mainstream avec un MJ et des joueuses, et pas un story game à MJ tournant, etc. Mmh. De la même manière, c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu de rôle et d'aventure, pas un drama character-centered, etc. Tout ça, c'est dit dans l'introduction du jeu, mais c'est pas développé. Je pars du principe que si je parle d'un D10, enfin si je mets D10 dans le truc, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un D à 10 faces.
Bien sûr.
Voilà, ouais, non okay. Platonicien.
Très bien, très très bien. Ok, alors pour expliquer rapidement comment le jeu fonctionne, à moins que quelqu'un veuille se lancer. Non, j'explique.
Non, vas-y.
Ok, je continue sur ma lancée.
Voilà.
Donc, pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, donc globalement, on a l'autorité sur son personnage, on décrit les actions de son personnage. LG joue l'intégralité des PNJ et a le dernier mot sur toutes les propositions qui concernent l'univers. Donc, on est dans un jeu de rôle classique. On a chaque fois qu'on fait une action qui pourrait rater, alors je sais pas comment dire, qui dépasse les compétences d'un humain normal, on pourrait dire ça comme ça.
Ouais, à chaque fois que le caractère, skill ne suffit pas. On lance les dés quoi.
Ah, enfin, ça c'est voilà. Intéressant. Tu dis.
Enfin, moi c'est comme ça que je maîtrise. Mais plus exactement, en fait, c'est le si tu vas aller par là, ce principe de système de jeu, c'est écrit, c'est les deux dernières pages du livre.
Ouais.
Je sais pas si tu les as lues.
Bah pas du tout. Non pas du tout. Je l'avais sur mon bureau.
Donc les deux dernières pages du livre, c'est la coda, c'est la postface du bouquin, des règles, qui explique en fait la philosophie, non seulement la philosophie du jeu, mais surtout le rôle de la maîtresse de jeu et des joueuses et la manière dont la maîtresse de jeu doit utiliser les règles.
D'accord.
C'est-à-dire le principe tel que je l'explique, c'est que en premier lieu, en fait, c'est le monde c'est l'univers de jeu qui est l'arbitre de ce qui se passe autour de la table.
Ouais.
Et donc, on va pas jauger des actions des personnages à partir de leur feuille de perso ou de leur capacité, enfin de leurs compétences, etc. Mais simplement, on regarde est-ce que l'action du personnage est en adéquation sociale, physique, intellectuelle avec les données de l'univers,
ouais.
Le moteur physique de l'univers. Et si oui, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de faire appel aux règles.
Nous, c'est ce qu'on dit souvent, si c'est cohérent, ça passe. Mais cohérent par rapport à quoi ? Ici, par rapport au canon dont tu t'inspires, à savoir des films d'aventure sérieuses.
Voilà, c'est plus compliqué que ça. Parce que justement, il y a une hiérarchie qui s'établit, qui est plus intéressante. Dans lequel, dans le canon de l'aventure sérieuse, la cohérence de l'univers va primer les capacités du personnage.
Oui.
D'accord. Mais si tu joues si tu fais du pulp ou du KPDP, les capacités du personnage vont primer la cohérence de l'univers.
D'accord, ouais.
Tu vois le principe ?
Ouais.
C'est-à-dire que, et pourtant les deux, ça va être un jeu d'aventure, mais il y en a un dans lequel l'univers dit... Non, se battre à 12 contre 1, c'est stupide et ça n'existe pas, ça ne marche pas. Le monde ne t'autorise pas à te battre contre 12 adversaires.
Oui.
Et dans un jeu de KPDP, si ta feuille de personnage te dit que tu es capable de te battre contre 12 adversaires, alors tu te battras contre 12 adversaires.
Très bien, ouais.
Tu vois. Donc, et donc cette hiérarchie, en fait, donc dans, j'établis une hiérarchie dans Cerber,
ouais,
qui n'est valable, qui est valable pour Cerber, mais si tu joues à Mordio par exemple, la hiérarchie va s'inverser.
D'accord. Je voudrais passer juste la parole à Anne, 30 secondes. Est-ce que tu avais déjà joué à Cerber avant ?
Oui, mais pas beaucoup, et ça fait un sacré paquet de temps.
Si j'allais te poser, est-ce que tu trouves que ça ressemble à une partie typique de Cerber d'ici ?
Écoute, ça, j'aurais du mal à te le dire, mais moi, je pourrais dire que oui, quand même. Mmh.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est assez prototypique de ce que le jeu permet de faire.
Oui, je pense. Dans mon souvenir, en tout cas, oui.
Très bien, très bien. Donc ça, c'était une question, c'est un peu une question canonique de ces... Est-ce qu'il y a des scènes que tu veux particulièrement voir émerger avec ce jeu, LG, des types de scènes? Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est... Moi, j'imagine, tu vois, quand j'ai lu Cerber, quand j'ai vu Cerber et la promesse du jeu, parce que j'ai lu que les premières pages, je me suis dit, ok, c'est un jeu pour jouer des mecs en impair sous la pluie, c'est presque du roman noir, ou même dans la SF, tu vois, du Blade Runner. Blade Runner, ça te semble déjà trop...
Non, Blade Runner, ça pourrait le faire.
C'est Cerber, quoi.
Ouais. Mais en fait, Cerber, c'est de l'aventure réaliste. Ça veut dire quoi ? C'est comme je mets dans l'intro, c'est pour faire des canons de Navarone, ce genre de choses. Donc, c'est pour faire des trucs dans lesquels il y a des gens qui vont agir, qui vont prendre des risques, qui vont se confronter à une adversité extérieure, qui vont, etc. Ouais. Mais dans un canon d'une certaine forme de réalisme. Et donc le jeu et les mécaniques du jeu sont taillées pour essayer de maintenir ou de provoquer ce réalisme. D'accord. Avec la maîtrise des outils, avec les cultures, avec... voilà.
Favi.
Moi, j'ai trouvé que oui, c'était du sérieux, mais avec des personnages à spécialisation. En fait, c'est des personnages qui sont extrêmement spécialisés. Quand on va lancer un dé, en fait, normalement, on n'a qu'un dé. Et on va avoir de plus en plus de dés selon ce qu'on sait faire, en fait. Et pour moi, il y a vraiment un côté, oui, où il va falloir expliquer, avec aussi le background, ça va avec, pourquoi, en fait... Pourquoi est-ce que je sais mieux que les autres crocheter cette serrure ? En fait, c'est pas n'importe qui pourra pas crocheter n'importe quelle serrure. Il y a un petit côté spécialisation, mais en moins lourd que Shadowrun, quoi. Parce que, évidemment...
Oui, alors voilà, c'est un jeu qu'on cite souvent là-dessus, c'est donc un jeu à compétences comme Shadowrun, en fait, où les personnages ne sont définis que parce qu'ils savent faire des choses.
Sauf que là, il y a aussi quand même la culture qui va avec, mais qui aide aussi à préciser la spécialisation. Mais voilà, c'est pas juste de l'aventure sérieuse en mode impair, c'est à côté, va y avoir quand même, vu que c'est ça qu'on a sur la fiche de perso, des capacités, etc., ça va sous-entendre un certain type de scène. Donc des scènes d'investigation, des scènes, ça peut pas être l'aventure où on part sur un bateau et puis de la liberté, etc. Il y a vraiment un sous-entendu derrière.
Et puis dans la mesure où on joue des personnages humains. Alors, il faut savoir que, donc, faut expliquer quand même le système de résolution pour comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Première étape, si on est un être humain, c'est-à-dire si on fait une action humaine, pardon, on a le droit de prendre un dé et de le lancer. Si on a une compétence en rapport avec l'action qu'on est en train de faire, on peut prendre un deuxième dé et le lancer. Et puis enfin, si on a une culture ou une maîtrise supplémentaire, on peut lancer, enfin, en plus, on peut lancer un dé supplémentaire. Autrement dit, on peut lancer un maximum de 3 dés 10. Et le but, c'est de maximiser les 8, les 9 et les 10 en lançant dans ces lancers pour faire les meilleures réussites possibles. Donc, en fait, on est invité constamment déjà à décrire des actions à échelle humaine, des actions qui restent humaines, parce que sinon, on ne peut pas lancer le premier dés 10. Pour pouvoir le lancer, il faut qu'on fasse quelque chose d'humain. Si c'est inhumain, on ne peut pas lancer le dé. Donc on est fort, tu vois, ça c'est un appel fort à la cohérence dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà. L'idée c'est qu'on lance de 1 à 3 dés et on lit le meilleur des 3 dés. Mais la philosophie, en fait la première philosophie c'est de dire, si tu n'as pas, tu fais, si tu as, tu fais mieux. Donc il n'y a jamais d'interdiction d'accomplir quelque action que ce soit. La seule limite, c'est la limite habituelle de... Si tu veux si t'es un humain et que tu veux soulever un rocher d'une tonne, tu n'y arriveras pas. Voilà. Par contre, si t'as la compétence force et que tu as une maîtrise des leviers et des points de pivot, alors le rocher d'une tonne, oui, tu vas le déplacer. Mais pas parce que t'es humain, mais parce que t'as des compétences techniques et t'as du matériel. Donc les maîtrises, c'est le matériel, enfin, c'est la connaissance du matériel à utiliser, etc. Les compétences, c'est les savoir-être et les savoir-faire. Et les cultures, c'est la connaissance d'un milieu social dans lequel on a grandi, dans lequel on travaille, dans lequel on fréquente, etc. Et dont on connaît les us, les usages et tous les codes et la manière de s'y comporter, quoi. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire si c'est à portée humaine. Le premier dé, c'est parce que ton action, elle est c'est une, juste
tu tentes
faisable,
quelque chose, parce que tu tentes quelque
un
chose,
truc
en fait.
Et que tu es censé pouvoir le faire.
Voilà.
Le deuxième et les troisième dés, c'est à cause de la compétence, de la maîtrise, de la culture, etc. Mmh. Et si, bien entendu, tu t'attaques à quelque chose qui n'est, par exemple, se battre à main nue contre un tyrannosaure, t'as pas le dé humain, enfin t'as pas le premier dé parce que un humain face à un tyrannosaure,
hyper. Tombe.
Ouais. Par contre, ouais, si t'as du combat, c'est la compétence combat, et que tu as une maîtrise des armes de gros calibre, logiquement, t'as des chances de pouvoir tomber le T-Rex malgré tout.
Voilà. À savoir que seul le 1 et le 2 sur un dé... seul le 1 et le 2 sur un dé est un dé qui échoue, en fait. Tous les autres, entre 3 et 7, c'est une réussite mineure. Et après, il y a de la réussite majeure à 8 et 9 et 10.
Il y a la réussite exceptionnelle quand au moins 2 dés ont 8 ou plus.
Voilà. Oui, alors, c'est tout à fait. Donc voilà. Donc en fait, on ne peut pas... Quand on lance le dé, en fait, les probabilités qu'on rate, si l'action est humainement faisable, on va dire ça comme ça, sont quand même extrêmement faibles.
Bah, si tu lances qu'un seul dé, t'as une chance sur deux de rater. Enfin, t'as une chance sur deux. T'as une chance sur cinq de rater.
Ouais, c'est très peu, tu vois.
C'est très peu, mais ouais. Avec un seul dé. Et en fait, dès que tu lances deux dés, tu passes, je crois que tu passes à 60% de chance de réussite et tu passes à plus de 80% de chance de réussite avec 3 dés. Donc, effectivement, plus tu lances deux dés, plus les probabilités de... Je crois que c'est même pire que ça, c'est 96% de réussite avec 3 dés.
Oui, tu peux pas, tu vois.
Donc, tu peux... À partir du moment où tu es compétent et que tu sais faire les trois choses, tu as peu de chances de te rater. Mais dans la vraie vie, c'est la même chose. On prend un truc tout bête comme conduire sa voiture. Si on avait une chance sur cinq d'avoir un accident grave à chaque fois qu'on monte en voiture, on ne monterait pas en voiture. De la même manière que les gens ne montaient pas spécialement dans les biplans en 1915, sauf obligation ou sauf parce que c'était des tarés et qu'ils n'avaient pas peur. Mais avec des taux de crash de 40% des élèves pilotes au début de la Première Guerre mondiale, par exemple. Tu vois, on était dans ce truc-là. Les mecs, ils avaient un dé parce qu'ils montaient dans la machine et que après ils allaient voir comment ça allait marcher, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, tu montes dans une voiture, tu as ton dé de pilotage, tu as la compétence pilote, tu as ton dé parce que tout le monde sait conduire une voiture ou a vu comment conduire une voiture quand il était gamin, ou est monté dans une voiture, donc est habitué à la vitesse que ça peut avoir. Mm-hmm. Et puis, éventuellement, tu as un troisième dé parce que tu... Donc fondamentalement, l'idée du jeu, c'est, on revient sur le réalisme, c'est de dire que logiquement, quand tu maîtrises ton sujet, tes chances de vraiment te planter sont... Alors, des chances de faire des trucs pas terribles, ça arrive. Tu fais des réussites mineures ou des échecs mineurs. Les chances de te planter, c'est inexistant ou presque.
Réalisme ou cohérence? Moi, je verrais plutôt dans la cohérence.
Oui, mais c'est cohérence par rapport à un univers...
Parce que le réalisme, on n'a pas fait des trucs réalistes, en vrai, ce soir. On était dans une histoire, c'était cohérent.
Oui, mais c'était cohérent par rapport à
un
univers terrien,
exactement, oui.
Avec un moteur physique terrien et un moteur social terrien. Enfin,
avec le type de film ou de fiction que tu cherches à émuler, tu vois.
Oui, des films d'aventure, donc il y a
des
toujours un côté
sérieuses.
Un peu... voilà. Mmh. Mais les PNJ tels qu'ils étaient incarnés ou les trucs, Y a personne n'était capable de sauter de 3 étages par une fenêtre. Si tu voulais ouvrir une porte, fallait utiliser des rossignols. T'avais pas.
Heureusement que Morgane était là pour nous aider à crocheter les serrures, par exemple.
Ce que je veux dire, c'est que on était sur un rap, sur une cohérence terrienne entre guillemets.
Alors, donc un truc qu'il faut rajouter, c'est ces bonus de circonstances. Il y a des bonus de circonstances qui sont accordés, soit des avantages. Qui peuvent booster notre lancer de dés à +2 sur le meilleur des jets de dés, sur le meilleur lancer de dés. Donc à chaque fois, on lance plusieurs dés, mais on n'en garde qu'un seul. Et les avantages vont nous permettre de booster globalement la réussite de ce dé. Ou alors, quand on a plusieurs avantages, on peut les distribuer sur plusieurs dés. Bon, ça, je passe un peu les détails.
Oui,
j'ai bien compris, mais je préfère passer.
C'est juste qu'on a des avantages et des avantages qui sont des éléments tactiques qu'on va aller chercher en parler descriptif, les idées, etc. Donc, ça amène la joueuse à poser des questions, à essayer de trouver des solutions pour faire mieux que normal.
Alors justement, est-ce que autour de la table, là, vous avez cherché, Anne, est-ce que tu as cherché à un moment donné à maximiser tes avantages, tes désavantages dans la partie? Est-ce que tu as cherché, tu t'es posé des questions sur ça?
Non.
Pas du tout, à aucun moment?
Non. C'est pas le réflexe que j'ai, quel que soit le système.
Je me suis dit, oh oui, c'est vrai!
Ah oui, d'accord, vous aviez complètement... même chose, Morgane, pareil, t'as pas cherché à maximiser les
choses?
Jamais. Ok.
Je pense que c'est plus un truc qu'on chope à l'habitude. Sur une première partie où on découvre le système, on joue...
Moi, j'ai pensé à ça.
Parce qu'à ce moment-là, Anne et moi, on s'est regardé, si mes souvenirs sont bons, genre... Ouais, il a pensé aux avantages et aux avantages.
Attends, j'ai pensé qu'à ça pendant toute la partie, moi.
Moi, j'ai jamais...
Pervers.
Mais oui, pervers, cerbère, veux-tu. Non mais j'ai pensé qu'à ça pendant toute la partie, pourquoi? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, le système, on va réussir. On va réussir. Si on lance les dés, on va réussir, c'est sûr. Hein, sauf si on fait des choses inhumaines, mais globalement, on va réussir. Donc qu'est-ce qui va distinguer le skill, tu vois? Le bon joueur du moins bon joueur, c'est ça. C'est la façon dont on va décrire des actions qui va nous donner des avantages et du coup on va maximiser nos chances.
Les avantages, d'abord, ils servent surtout à enlever les désavantages. J'ai pas beaucoup joué aujourd'hui sur les désavantages parce que j'ai pas eu beaucoup d'occasions et parce que sur une partie relativement courte, j'avais pas non plus envie de trop prendre de temps là-dessus. Ensuite, les avantages, ils servent à ne pas obtenir seulement des réussites mineures, parce que les réussites mineures, c'est reste des réussites mineures. C'est des réussites à compromis. Donc, oui, tu réussis, mais... Ou tu échoues, mais pas trop non plus, quoi.
Oui.
C'est souvent l'exemple que je donne, c'est... si tu cherches à... Ton personnage cherche à sortir d'une maison discrètement. Et il fait une réussite mineure. Eh ben, t'as le choix entre t'es resté discret mais t'as pas pu sortir, ou t'as réussi à sortir mais on t'a vu. C'est ça le principe d'une réussite mineure, du compromis de la réussite mineure. D'accord. Donc oui, tu réussis, mais
ça change tout.
Tu vois. Okay. Et de la même manière, donc là aujourd'hui, il y a pas eu énormément d'occasions de vraiment mettre ça en scène pour plein de raisons, parce que c'était surtout de l'enquête, parce qu'il y a eu pas tant de jets que ça, etc. Mais c'est ça le truc. Donc les avantages, ils servent surtout à essayer de passer en réussite majeure, donc sortir et rester discret, ou voir à passer en réussite exceptionnelle, c'est-à-dire sortir, rester discret et embarquer un truc au passage.
Ok, parce que j'étais en train de me faire la réflexion que le système, si je me bats contre un dinosaure par exemple, ce qui est l'exemple que tu as donné tout à l'heure, en fait, si j'ai combat par exemple les pistolets, je lance 2 dés. D'accord.
Oui.
Ça veut dire que j'ai quand même de grandes chances de réussir mes actions.
Je vais
gagner contre un dinosaure.
C'est surtout que là en plus tu parles du système de combat qui est équivalent mais un poil différent, puisque le système de combat c'est pas des réussites mineures majeures, c'est chaque dé inflige des dégâts.
Donc je vais finir par le bouffer moi mon dinosaure.
Bien sûr. T'as un gros calibre, tu commences le combat à 200 mètres, tu sais courir un peu et te cacher. Normalement, s'il te rattrape, il te mâchouille, mais sinon, tu lui mets une balle. Enfin, c'est comme un rhinocéros. Par contre, faut pas te rater.
Ouais.
Et puis, du coup, si tu fais que des 1 ou des 2 sur tes 2 dés, ou même des 3, et que tu peux pas booster ces dés-là, tu fais que 1 point de dégâts par 1 point de dégâts par 1 point de dégâts par 1 point de dégâts. Tu laisses beaucoup de temps au dinosaure de te rattraper. Tu vas chercher les avantages, tu prends le temps de viser, tu te poses, tu bénéficies des bonus que tes copains te donnent, etc., etc. Et que tu fais un bon jet, parce que justement tu fais des bons jets, parce que tu vas avoir tes avantages, alors c'est pas un point de dégâts par un point de dégâts que tu files, mais ça va être 6 points de dégâts par 6 points de dégâts. Mmh. Et bah, du coup, peut-être qu'en 2 ou 3 tirs, tu vas pouvoir le coucher, alors que dans l'autre cas, il t'en faudra 25, et auquel cas, il t'aura mangé avant que tu aies fini ton chargeur.
Est-ce que tu as des questions ? Moi, j'ai une batterie de questions.
J'ai une batterie de questions, mais d'abord les tiennes, parce que les miennes vont embrayer sur un autre sujet.
Ok. Bon, moi, j'ai une première question. À un moment donné, je pense que celle-là, elle est facile. Tu as dit, tu fais pas le jet de dés, parce que là, c'est un indice. Est-ce à dire que le meneur de jeu a des conseils de préparation qui font qu'il sait que pour certains jets de dés, enfin que pour certains éléments de la fiction, les joueurs doivent les trouver nécessairement, et comment ça se passe ça ?
Alors là, il y a deux éléments. Premier élément, c'était la question du temps cet après-midi, où j'avais pas beaucoup de temps et il fallait que ça avance. Donc ouais. À un moment donné, j'ai pris un raccourci. Et puis la deuxième, alors ça pour le coup c'est un truc que j'ai plus expliqué, j'ai commencé vraiment à expliquer un petit peu dans Dragon de Poche et ensuite dans justement le Métal Froid des Anneaux de Cerbère, qui est un jeu d'enquête. Et c'est un truc que j'essaie de mettre maintenant dans les jeux que j'essaie de développer, je continue à développer petit à petit en essayant d'affiner un peu mon propos, comment le MJ doit-il gérer un jeu d'enquête ? Pour que les joueurs ne s'emmerdent pas et qu'ils n'aient pas l'impression d'être constamment dans le mur à l'aveuglette. Et le principe, il tient sur deux choses. C'est que, tout d'abord, une enquête, c'est un puzzle dont les personnages ne connaissent ni le motif, ni le nombre de pièces, ni la forme des pièces.
Oui.
Et des fois, en plus, c'est plusieurs puzzles mélangés. D'accord. Donc, si en plus, tu t'amuses à cacher les pièces, les joueurs n'y arriveront jamais. Et donc, un des principes absolus pour que les joueurs ne s'emmerdent pas et n'aient pas l'impression de rentrer dans des murs en permanence, c'est si un joueur pose une question, une joueuse pose une question,
ouais.
Alors la maîtresse de jeu doit donner une réponse. Ça peut être une réponse directe, l'indice c'est ça. Ça peut être une réponse indirecte, tu penses que tu pourrais trouver l'indice à tel endroit. Ou ça peut être un truc aussi bête que non, là, vous vraiment vous refroidissez, c'est vraiment pas dans cette direction que vous devriez chercher. Voilà. Mais grosso modo, à chaque fois que quelqu'un pose une question autour de la table, il doit y avoir une réponse qui fait avancer le chemin public. Tu peux pas dire non, tu trouves rien. Non, il n'y a rien à cet endroit-là. C'est un peu le principe qu'il y avait dans le donjon de Nixon.
Ouais.
Nixon, Clinton, je ne sais plus. Bref.
Si, c'est ça.
Qui disait mon elfe fait un jet pour chercher les portes secrètes et il réussit son jet. Mm-hmm. Et s'il n'y a pas de porte secrète dans la pièce, le jet ne sert à rien. Donc, par principe, ils ont commencé à leur table de jeu à l'époque. Si le elfe fait un jet pour trouver les portes secrètes et qu'il réussit son jet, alors il y a une porte secrète. Même si elle n'était pas sur le plan avant. Maintenant, elle est sur le plan.
D'accord.
Et cette philosophie-là, que moi j'ai découvert il y a une grosse dizaine d'années, a été super fondatrice sur plein de trucs derrière, et notamment sur les jets d'enquête, que je menais un peu comme ça déjà, mais qui... Voilà, c'est si tu fais une action qui te permet d'obtenir une réponse, alors tu auras une réponse, même si tu ne cherches pas au bon endroit.
Très vite.
Oui, puis en plus c'est très très important parce que ça break aussi un certain type de masterisation, qui sont les masterisations de pièges. Ou en gros, on te dit ça pour te perdre, et puis tu vas passer un quart d'heure à faire un truc, et au final, ça ne servait à rien.
Ouais.
Et moi, ça me plaît beaucoup, parce que moi, je n'ai jamais masterisé comme ça, parce que je détestais ça. Et ça me plaît beaucoup quand je vois des jeux où on te dit, non, si la personne, elle a cherché un truc et que tu ne lui as pas dit dès le début qu'il ne fallait pas chercher le truc, si elle le trouve, elle le trouve. C'est à un moment, ça sert à rien de faire des lancers de dés en disant il cherche un truc qui n'existe pas, oh je suis un génie. Non, c'est juste chiant.
Et puis surtout, il y a tellement d'autres manières de piéger, de piéger les joueurs. Comme tu disais, si tu mélanges deux puzzles sans leur dire, déjà c'est compliqué de trier les pièces. Et puis ensuite, tu peux dire la vérité en permanence, tu peux donner des faits en permanence. C'est pas pour autant que les faits les joueurs, il faut encore qu'ils les analysent derrière, ouais. Et si les joueurs se plantent et que t'as réussi à donner des faits qui sont suffisamment ambigus pour que plusieurs solutions soient possibles et que c'est pas les bonnes qui soient prises, mmh. À un moment donné t'as commencé à raconter des trucs pendant la partie au début, façon Castle,
ouais.
Oui, alors en fait on a tel indice donc je pense que l'histoire c'est ça. c'était très drôle, complètement à côté de la plaque, mais très drôle. Et, alors, et en fait,
Flavie
et en fait,
fait le personnage de Flavie me l'a fait remarquer.
Voilà. Direct. Et en fait, t'as pas besoin de piéger les joueurs. Ils le font très bien tout seuls comme des
ils
grands.
Ils se piègent tout seuls, ça c'est clair. Un dernier élément plus de game design assez technique. Donc, je suis désolé si vous avez pas ressenti le même problème que moi. Et voilà. C'est très compliqué à expliquer. Quand tu demandes un jet de dés, le souci, c'est que je ne sais pas à l'avance, quand je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais pas à l'avance laquelle de mes compétences va être utile à l'obtention de l'information. Je te cite un exemple. À plusieurs moments, en fait, je t'ai donné l'intégralité de mes maîtrises en te demandant « Est-ce que sur cette scène, ma maîtrise au pistolet va être utile ?» Est-ce que ma maîtrise en armurerie va être utile? Est-ce que ma maîtrise en filature va être utile? Est-ce que ma maîtrise en investigation va être utile? Autrement dit, je t'ai énuméré toutes mes maîtrises pour savoir si par hasard, il y en avait une qui allait être utile. Pourquoi je l'ai fait? Parce que, par définition, quand un PJ cherche un indice, il ne sait pas à l'avance ce qu'il va trouver. Et donc, c'est extrêmement difficile de savoir, en fait, quelles vont être les compétences et les maîtrises utiles à l'obtention d'un indice. Si je me baisse par terre et que je dis Je cherche un indice par terre, dans la mesure où je ne sais pas quelle va être la nature de ce que je vais trouver, je ne sais pas non plus quelles vont être mes compétences utiles. Et donc ça, j'ai eu plusieurs problèmes de ce type-là.
Alors, moi je peux t'expliquer pourquoi tu as eu ce problème-là. Parce qu'on avait deux façons de jouer différentes à Cerber, toi et moi. Moi, avant de faire le jet de dés, j'expliquais par avance quelle allait être la façon dont j'allais chercher le truc. Je ne cherchais pas un indice spécial, j'expliquais comment je faisais l'action. Ce qui fait que je n'ai jamais eu le même problème que toi, puisqu'en fait, pour pouvoir jouer à Cerber, qu'est-ce que je faisais avant, quand je réfléchissais à ce que je devais faire, je regardais d'abord mes capacités. J'en ai quatre, agilité, discrétion, éloquence, instinct. Je regardais laquelle je pouvais utiliser, puis j'allais dans mes maîtrises et j'allais dans la culture. Et j'expliquais ce que j'allais faire, ce qui fait que quand je disais, d'ailleurs, à certains moments, je disais, d'ailleurs, je veux faire ça. Du coup, il me disait, à un moment, il était obligé de me dire, non, attends, parce que du coup, moi, j'étais en fait assez clair ce que je voulais faire. Toi, c'était l'inverse, t'étais plutôt en joueur qui attend que le MJ lui dise comment trouver l'indice.
D'accord, ouais.
Et du coup, ça a été deux façons très, très différentes de jouer. De la même façon, à un moment, en gros, on attend dans une salle d'attente et il y a plein de monde, donc je me mets à faire semblant de tousser, à faire semblant d'avoir genre la lèpre ou le choléra pour que les gens veuillent partir du voilà. Et donc là, l'action est assez claire. Du coup, bah ça va être assez clair ce que je vais devoir utiliser sur ma fiche de perso. Alors que toi, tu disais bah je cherche. C'était toujours assez vague en fait.
Alors c'est exact, mais j'ai un petit contre-exemple. J'ai même deux contre-exemples. Il y a des moments où LG donnait des bonus d'avantage parce qu'on avait une maîtrise.
Alors, en fait, les deux...
Au lieu de nous permettre de lancer le dé, il disait... Voilà, vas-y.
C'est super intéressant parce que en fait, les deux méthodes sont valides. Les deux manières de jouer l'un et l'autre sont valides, mais vont vous apporter des choses différentes. C'est-à-dire que, effectivement, dans le cas de Flavie, quand tu me dis... j'utilise tel truc, et que tu cherches un indice dans ce truc-là, dans cette direction-là, tu auras un indice dans cette direction-là. Qui n'est pas forcément l'indice que tu pourrais attendre ou que tu pourrais trouver naturellement, machin, mais tu orientes le type d'indice que tu pourras trouver ou la manière dont éventuellement je peux t'amener un indice, etc. Quand c'est en mode plus ok, je regarde ou je regarde le truc et... qu'est-ce que je peux utiliser pour avoir une information sur l'objet que j'observe, en sachant que je ne sais pas exactement ce que j'observe, mais vu que je ne sais pas ce que j'observe, mais j'observe un objet précis, dis-moi qu'est-ce qui est sur ma feuille de perso pourra me donner des avantages ou des bonus pour analyser l'objet. Et du coup, là, tu es plus sur l'idée d'avoir déjà un indice dont tu ne sais pas ce que c'est. Ou un lieu à explorer dont tu ne sais pas ce que tu vas trouver.
Ouais.
Et donc, dans un cas, en fait, tu pars de ce que tu as déjà et tu vois comment ton personnage l'identifie ou l'analyse.
Ouais.
Et dans l'autre cas, tu réfléchis à ce que ton personnage, à quoi ton personnage peut penser.
Mais oui.
et tu trouves un indice qui va être dans l'angle de perception du truc.
Dans un cas, c'est le joueur ou la joueuse qui a l'initiative. C'est-à-dire que c'est la joueuse qui te dit « MJ, j'utilise ça, ça, ça mais... » et je te donne la direction. Dans un autre, c'est le personnage qui prend l'initiative. C'est-à-dire, ouais, en fait, ouais, en gros, ouais, je dis, c'est... étant donné mon personnage, voilà, qu'est-ce que je vais découvrir ?
En fait, dans un coin, dans un cas, le personnage zoome sur un élément d'information dont il veut avoir dont il veut tirer des choses. Et dans l'autre cas, le personnage, en fait, ou la joueuse resserre l'angle de vision pour trouver quelque chose dans cet angle de vision. Mais les deux, en fait, sont utiles et c'est deux manières qui, en fait, dans la plupart des enquêtes, en réalité, les personnages passent leur temps à faire c'est holistique en fait. Tu pars d'un truc, tu fais des sauts intuitifs d'un indice à un autre. Tu te dis ah ouais, mais ça devrait être quelque chose comme ça. Du coup, et si je cherchais dans telle direction, est-ce que ça pourrait m'obtenir des trucs? Et là, le MJ soit te donne des informations, soit te dit bah non, tu refroidis, ou là vraiment personne n'est capable de te dire quoi que ce soit. Mais comme on passe notre temps à faire des sauts intuitifs d'une idée à une autre en permanence, et expérimenter des choses, en fait, c'est l'usage de deux outils différents.
Oui.
C'est d'une part, c'est un radar, et de l'autre part, c'est un microscope, on peut dire.
Ok, d'accord, très bien. Pour toi, pas de problème.
Ah non, non, c'est une grammaire plus large de l'enquête. Qui est D'accord. Plus intéressante du coup.
Intéressant. Alors du coup, j'ai une question à te poser sur la structure du scénario, ce sera ma dernière question. Sur la structure du scénario, est-ce que tu as prévu les indices à l'avance ou uniquement la trame principale ?
Alors, je pourrais te montrer tout à l'heure ce que j'avais pris comme note sur mon carnet.
Tu vas me le dire maintenant.
Alors, je peux te dire.
Mais si tu me le montres tout à l'heure, les auditeurs, d'accord, ils ne vont pas le voir.
Donc, en gros, j'ai commencé par noter Scénar Cerber 1915, 28 juin 1914, assassinat, gueule cassée, secte des fées noires. Et après, orphelinat Saint-Victor. Enlèvement de 5 enfants, tous nés après le 28 juin 14. Personnel drogué. Un indice, un étui de munitions sculptées qui donne secte des fées noires. Et un flacon de chloroforme, nom d'un médecin dessus. Flacon volé par un patient gueule cassée. Derrière, je note Nepomucène Scarlatti, chef de secte. Sacrifice des enfants dans le métro pour faire cesser la guerre. Voilà mon scénario.
Okay,
et donc tout le reste, ça a été du...
Donc tu avais quand même les deux indices de l'hôpital, enfin de l'hôpital, pardon, de l'orphelinat qui étaient prévus.
Bah, j'avais deux angles. En gros, j'imaginais que vous auriez deux trucs à analyser qui mèneraient qui seraient deux façons différentes d'arriver au même truc, et c'est ce qui s'est passé.
Ouais, d'accord.
Okay. L'un d'entre eux vous a donné la gueule cassée et l'autre vous a donné Nepomucène.
Ça veut dire que tout le reste, donc la scène avec l'informateur dans le bistrot, la scène avec le bibliothécaire, enfin c'était un expert, c'était quoi déjà, Anne, que t'as...
C'était un religieux qui était enseignant en établissement privé et qui avait sa bibliothèque personnelle.
Voilà, c'est ça. Et donc, il t'a permis de décoder en fait les glyphes grecs,
oui,
qui figuraient.
C'était du grec ancien, donc. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et toi, Morgane, qu'est-ce que t'avais fait avec Germaine? T'avais tenté aussi de faire une scène d'investigation. Qu'est-ce que t'avais fait déjà?
Rechercher des indices et des déplacements.
Je t'entends pas.
Rechercher des indices et des déplacements autour de l'orphelinat.
Ah oui, c'est ça. T'avais découvert notamment le fait que il y avait une voiture qui avait démarré en trombe, etc. Mmh. Alors, je suis désolé, dernière question. T'as imposé des tours de table pendant la partie.
Oui.
T'as dit toi, puis toi, puis toi, puis toi. Oui. Ça fait longtemps que tu fais ça ou t'as toujours fait ça? J'ai l'impression que c'est nouveau,
priori,
ça.
En fait, ça fait longtemps que je le fais, je pense, naturellement, relativement naturellement. Mais c'est devenu, en fait, suite à de longues discussions avec Anne et des expériences en convention et plein de choses, c'est devenu très conscient, enfin, on va dire.
C'est pour éviter le joueur grande gueule qui prend toute la place?
Pas seulement, c'est parce que je crois que fondamentalement, le premier rôle de la maîtresse de jeu, c'est d'assurer la distribution de la parole.
D'accord, okay.
Il faut être hyper fasciste, mais à ce niveau-là, parce que des fois, effectivement, il y a des joueurs grande gueule qui, ils font leur truc, et puis tu t'apprêtes à passer à quelqu'un d'autre, et là, au fait, après, je vais faire ça, et ensuite, je fais ça, et d'ailleurs, je vais faire ça aussi, et c'est tout à l'heure, je fais d'abord mon tour de table et je reviens. Alors, Flavie l'a fait tout à l'heure, mais
Je suis un peu trop fougueuse quand on démarre.
Ouais,
une
mais t'es pas la seule. Enfin, je veux dire, j'ai eu d'autres joueurs à qui j'ai fait qui m'ont fait le coup. Généralement, parce que ça se passe bien, je fais une fois. Non, je passe d'abord aux autres et je reviens à toi. Et comme en plus les gens sont habitués au fait que je fais tourner, et s'habituent vite au fait que la parole elle tourne vite. Du coup, finalement, ça, il y a une discipline. Et moi, je sais que, enfin, il y a 2-3 ans, j'étais sorti d'une convention et à la fin de je mène en convention et à la fin de la table, il y a une des joueuses qui me dit, extraordinaire, cette manière de distribuer la parole, j'ai jamais vu ça nulle part. Et tout d'un coup, tout le monde pouvait parler et savoir, en sachant qu'il allait avoir son espace de temps et qu'il allait elle était juste ce truc-là, le reste, je suis pas sûr qu'elle ait. Si, elle avait bien aimé et tout, mais ce truc-là, elle a vraiment pointé à la fin de la partie et j'étais là en mode yes, c'est bon, ça veut dire que cette méthode-là, elle fonctionne. Et c'est. Alors, c'est un truc qui a été un peu structuré dans Index Card RPG.
D'accord.
Mais. Alors,
ça
du coup, j'avais
chaud. C'est quoi ça, Index Card?
Alors, Index Card RPG, c'est un jeu de la mouvance OSR. Qui est plutôt pas mal, qui a plein de bonnes idées. Et tout le monde m'avait vendu le jeu en me disant oui, il y a ce truc-là, enfin, notamment Kobayashi, qui est un gros, gros fan, qui me disant oui, il y a vraiment des outils pour le fait. Tout est dans Index Card RPG, tout est géré par tour. C'est-à-dire qu'on se met d'accord que là, ça va être un tour de 10 minutes. Donc pendant les 10 prochaines minutes, chacun parle. Et dit ce qu'il fait dans les 10 minutes qui viennent. Le tour d'après, c'est peut-être un tour d'une heure, et donc chacun dit ce qu'il fait pendant l'heure qui suit, etc. Donc il y a des intervalles de temps variables, mais chacun explique ce qu'il fait par intervalle de temps. Donc si c'est le round, parce que c'est un round de combat, bah, on est en initiative habituelle, ploum ploum ploum, on joue le truc. Et si c'est la prochaine demi-journée, qu'est-ce que chacun fait ? Eh ben, chacun exprime son action de la demi-journée à venir. Mais en ayant son tour de jeu et en disant bah, moi je fais rien, je me repose, peu importe. Mais t'as ton tour de jeu. Alors bon, j'étais un peu déçu quand j'ai chopé le jeu parce que ça tient en une page en fait. L'explication, c'est une page sur les 80 pages du bouquin. Ah. Et je trouvais que j'étais un peu déçu parce que c'était pas un vrai outil. Puis ouais. C'est un truc que je faisais déjà intuitivement depuis très très longtemps. Par contre, je reconnais que je le faisais intuitivement et que ce truc-là m'a aidé à encore mieux le structurer dans ma tête.
Fabien dit souvent, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant.
Voilà, exactement.
Pardon.
Non, mais voilà. C'est hyper important de.
Alors, je trouve.
De maintenir. Et puis, y compris d'ailleurs, si tu veux maintenir du rythme. Tu fais jouer les joueurs dans l'ordre, tu distribues, et à un moment donné, quand il se passe un truc, tu coupes un joueur sur un cliffhanger et tu passes au suivant. Et du coup, le joueur qui était en train de faire un truc, mais ça fait déjà 10 minutes qu'il parle, et que tu arrives à trouver un cliffhanger, ça fait 10 minutes que tu attends pour voir ton informateur, et là, à ce moment-là, tu le vois rentrer dans le bar, il a l'air inquiet, ok, joueur suivant.
Alors, avec deux limites néanmoins, c'est-à-dire que je trouve ça très bien dans les scènes d'enquête, c'est-à-dire que chacun séquence sa recherche d'indices, mais dans les scènes d'action, je sais pas ce que t'en as pensé, Morgane, mais tu sais, la scène finale où on est avec le flingue, j'ai trouvé que le fait que tu montes à l'étage, ça a été oublié en fait dans la fiction, parce que on a tellement séquencé la scène d'action. Entre nous deux, nous trois même, parce que toi aussi, ça t'a permis de fuir Anne aussi dans la scène.
Oui, moi je suis sortie.
Exactement, qu'au final, en fait, il se passe des choses dans une scène qui rentrent en contradiction avec ce qui a été préparé par une autre joueuse avant.
Oui et non, c'est-à-dire que...
Tu t'es pas senti squeezé à ce moment-là, Morgane, toi, dans ton action, t'as pas senti que ça... J'ai trouvé que c'était un peu...
Oui, mais c'est difficile aussi de partager, parce que là, tu étais dans un moment d'action, et si on retombait dans... elle monte à l'étage et fouille les chambres,
Germaine, ouais.
Germaine, y a un rythme qui est perdu aussi dans l'histoire, même pour tous.
Donc du coup, tu vois, t'as sacrifié... Moi, je trouve qu'elle a sacrifié son action au nom du rythme, en fait.
Oui,
alors
non,
que si on n'avait été pas au tour par tour, bah, elle m'aurait interrompu.
Parce que en vrai, on était sur une scène d'action. On avait tiré une initiative. Enfin, voilà, on était sur une scène d'action. Et en vrai, le problème, c'est que j'aurais dû. Ça, si on avait vraiment fait la scène d'action complète, le truc, ça aurait été ok, tu menaces le mec, tu lui causes, tu montes 5 marches. Tu fais le truc, tu l'empêches de libérer son chien, tu montes 5 marches, tu arrives sur le palier, etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir jouer sur les trucs. C'est-à-dire que quand un joueur... Enfin, même moi, quand je suis joueur, que je prends une décision de, pour une raison ou une autre, ça m'est arrivé hier, c'est pour ça que je peux en parler, d'être au début d'un combat, le combat se déclenche, et pour X raisons, il se trouve que j'ai pas d'adversaire devant moi et que le chemin pour aller trouver le trésor qui est à l'autre bout du donjon est ouvert, puisque les monstres sont occupés. Et je dis au MJ, ok, je profite, la porte est ouverte, j'y vais, quoi, je fonce. L'idée, c'est que derrière, je sais très bien qu'on va gérer le combat et que pendant une demi-heure, je vais rien avoir à faire parce que je suis en train de... Mais j'ai pris cette décision de... en sachant que mon action était une action longue alors que les autres vont avoir des actions courtes, etc. Donc
Morgan,
t'es obligé de gérer comme ça aussi.
Tu savais qu'en montant les escaliers t'allais être un peu exclu de l'action?
En fait, ce que je savais, c'est qu'à partir du moment où tu étais dans l'action, le fait de monter l'escalier et la prise de parole allait être compliqué.
D'accord. Okay.
Quand je joue avec toi, je sais que c'est parfois il y a des décalages, mais c'est un parti pris et ça on l'accepte quand on commence à jouer. Voilà. Après, tu disais c'est pas que tes systèmes ne sont pas full débutantes et moi je suis une débutante éternelle.
Mais en fait, le truc, tu vois, c'est que les tours de parole pour l'enquête, je trouve ça fonctionne bien parce que chacun fait effectivement son truc. Toi, Morgane, tu t'allais chercher du côté des voitures. Je ne sais plus d'ailleurs ce que tu faisais dans l'orphelinat, toi. Qu'est-ce que tu faisais dans l'orphelinat, Anne, à ce moment-là? Quand on a fait la scène d'enquête dans l'orphelinat où il a séquencé les tours, quelle a été ton action à toi?
Je ne me rappelle plus, mais
t'es allé interroger les
nurses.
T'as interrogé
les...
Ah,
c'était
au tout début, ça. Ouais. Et ensuite, t'as fait des copies de... T'as fait des copies de registres aussi.
Oui.
Chacun était dans son couloir, donc c'était normal. Mais par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire un tour de parole pour une scène de discussion, par exemple. Les joueurs mettent en commun, tu peux pas faire un tour de parole.
Oui, mais une scène de discussion où tout le monde est en train de discuter autour d'une table et ou même avec un PNJ, mais tout le monde est là, comme avec le médecin, etc. Bah là, on fait pas le tour de parole. C'est chacun prend la parole au moment où il veut parce que tout le monde est présent. Mais grosso modo, sur une scène où tu vas avoir une distorsion de rythme, par exemple, typiquement, toi t'es en train de bourriner le barman pour et donc ça se joue très très vite. Et à côté de ça, t'as une scène de quelqu'un qui est en train de fouiller une pièce. Où il y a une distorsion, au lieu, clairement, ce genre de choses, moi je le gère en mode, je vais ramasser au même endroit tout ce qui est du temps le plus long, et je le ferai jouer après les temps les plus courts. Je vais pas, tu vois. Donc en fait, l'idée c'est toujours trouver le truc, c'est toujours trouver la manière d'organiser les choses, et y compris par des cliffhangers, et y compris par des... je te laisse faire un bout de truc avec le barman, et puis, j'en sais rien, bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire pour plein de raisons, parce que ça a été assez vite avec toi, mais en haut, à un moment donné, j'estime que, ouais, là, t'es arrivé au palier, et là, il y a des gens qui sortent d'une chambre, et donc, et là, on peut faire un bout de truc, enfin, c'est toujours l'idée de distribuer la parole, mais après... Il y a aussi un sens, tu regardes tes joueurs et tu vois comment ils sont concentrés, comment ils réagissent. Si tu vois qu'il y a un joueur qui commence à jouer sur ton téléphone portable, c'est le moment où toi, là, tu vois, c'est comme dans une salle de cours.
Mais tu vois,
tu relances les choses aussi.
Tu dis autrement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le tour de parole n'empêche pas quand même le meneur de jeu d'être vigilant.
Ah, bien sûr. Ah non, mais
c'est pas la panacée, quoi.
Non, c'est un outil parmi plein. Et l'autre outil étant effectivement de d'être attentif à tes joueurs, de savoir et puis éventuellement d'essayer de repérer assez vite ce qu'ils vont aimer. Est-ce que ils vont aimer des grandes envolées lyriques? Est-ce qu'ils vont aimer les plans tordus avec qui vont être compliqués à mettre en place? Et enfin, tu vois, des des machines de Golden Rube là, ou est-ce que ils vont attendre le combat avec impatience, est-ce que ils aiment jeter les dés et ils gèrent tout en jetant les dés, ou est-ce que au contraire ils vont essayer autant que possible de dire au MJ je fais comme ça parce que j'ai pas envie de lancer le dé pour avoir le risque de rater,
ouais,
tu vois. Et ça c'est ça, il faut le sentir et il faut le jouer avec ce truc là aussi.
Mais dans tes jeux, on voit bien quand même que globalement une règle supplémentaire un peu tacite, c'est la maîtresse du jeu et au service de ses joueuses, tu vois, quelque part. Enfin, c'est ce qu'on a toujours dit sur
tes jeux.
Comme
je mets souvent, c'est les règles comptent, mais les joueuses comptent encore plus.
Ouais, okay.
C'est-à-dire qu'il faut que si elles ont des bonnes idées et qu'elles sont intelligentes et qu'elles trouvent des solutions, les règles, tu t'assois dessus. Et puis le deuxième truc, c'est les règles comptent, mais la maîtresse de jeu compte encore plus. Et si la maîtresse de jeu trouve des moyens de gérer les choses sans s'occuper de lancer les dés, il faut qu'elle fasse aussi, quoi. En restant dans la cohérence et en restant dans... Alors c'est... Je suis un peu embêté parce que Sébastien Delfino appelle ça la tyrannie bienveillante. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme que je trouve très, très, très mauvais, très méchant pour le MJ. Mais c'est vrai que...
Qu'est-ce qu'il appelle la tyrannie bienveillante ?
Ce qu'il appelle la tyrannie bienveillante, c'est le fait que... c'est l'inverse du ludisme, en fait. C'est l'inverse du... Enfin, c'est le fait que quand les règles gèrent tout et qu'elles sont les mêmes pour le MJ et les joueurs, alors... Les joueurs ne peuvent pas craindre une décision arbitraire ou le fait du prince de la maîtresse de jeu.
Très bien.
Et inversement, et donc par exemple, DD4 était très très bien pour ça, pour les combats par exemple, parce que effectivement les règles elles sont au-dessus de la table.
Ouais.
Elles sont pas entre les mains du MJ.
On a eu l'occasion d'en parler avec toi au cours du one shot sur DD4 que je vous invite vivement à aller écouter.
Voilà. Mais d'un autre côté. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait d'abord une certaine forme de confiance du MJ des joueurs vis-à-vis du MJ, et une forme de confiance de la maîtresse de jeu vis-à-vis de ses joueuses. Mmh. Au sens où faut que la maîtresse de jeu sache, enfin, se dise que non, les joueuses ne sont pas là pour niquer son scénario. Non, c'est pas grave si les personnages sont plus puissants ou changent le monde et l'univers. Mmh. On joue pas les uns contre les autres, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans le coopératif et on n'est pas dans la tyrannie. On peut pas être dans la tyrannie, enfin, je pense.
Flavie, tu avais une question.
Oui. Moi, j'aime bien. Alors, même, enfin, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien le système de jeu. Par contre. Pourquoi faire un système de jeu différent, enfin un mode de résolution différent pour la bagarre, pour les combats. Je trouve ça presque dommage parce que je trouve que le reste est assez élégant en fait. Et quand je suis presque contente de pas avoir été là, de pas avoir fait de combat parce que je trouve ça triste en fait de passer ensuite en action manœuvre qui en plus moi sont des
trucs
qui font que du coup moi généralement je suis pas très à l'aise là-dedans alors que le reste fonctionne très très bien. Donc pourquoi as-tu senti ce besoin?
Alors parce que moi j'aime bien la tactique, j'aime bien les combats, j'aime bien lancer les dés dans les combats, j'aime bien que les combats soient tactiques. En fait c'est un peu comme jouer à Fire Emblem ou à un tactical RPG
ouais, t'entends la musique qui fait vouh, et là on passe
surtout,
sur un système
ouais, c'est
de
ça,
combat
t'as des conduits comment dire, de roleplay avec les images des PNJ qui apparaissent et des choix multiples dans les discussions qui amènent des trucs.
Tu vois que nous avons fait le même type d'RPG.
Voilà, et puis à un moment donné, boum, la grille s'affiche et on met les figurines sur la grille et chacun bouge à son tour et c'est fun. Et en fait, c'est ce dont j'avais parlé à une époque, c'est le principe des mini-jeux. Dans le jeu de rôle, ça perd. Et puis.
Oui, c'est ce que j'ai marqué sur ma fiche, système générique pour du Grump.
Voilà.
C'est et avec des différents systèmes pour différents
voilà.
moments.
Et puis moi, j'aime vraiment.
Musard, c'est ouais. plus quoi.
Puis moi, j'aime bien l'aspect tactique des combats. Alors, par contre, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit fun, et il faut que ça respecte les mêmes règles que le reste du jeu, c'est-à-dire, le plus important, c'est le choix. Quand dans une enquête, vous cherchez à... Tu vois, typiquement, quand tu arrives devant le barman, tu aurais pu abattre le chien. Tu aurais pu...
J'ai pas voulu, pauvre bête.
Tu aurais pu te mettre devant la porte, et empêcher le chien de poursuivre le personnage de Flavie. Ouais. T'aurais pu juste lui se pencher vers lui et lui siffler à l'oreille. Dans la faute place, je ferais pas ça. Je suis de la police, je veux pas faire d'escandre, mais t'aurais pu y aller cool.
Non, j'avais pas les caractéristiques.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choix. Non, mais
c'était pas cool.
Si, mais c'est ce que je veux dire, ça reste des choix. C'est juste que le choix d'y aller cool avec lui n'était pas un choix optimum.
Non.
Au sens où tes caractéristiques n'étaient pas les bonnes, enfin tes compétences n'étaient pas les bonnes pour ça.
Voilà.
Parce que t'étais plus à l'aise avec un flingue dans tes pognes qu'à lui susurrer des mots d'amour à l'oreille.
C'est clair.
C'est clair et net. Mmh. Mais ça restait un choix possible. Et dans certains cas, des fois, il aurait pu, si par exemple la pièce avait été pleine d'ouvriers avec des manches de pioche et d'anarchistes eux-mêmes armés, il aurait été peut-être plus judicieux, même si t'étais pas à ton optimum de compétences, d'y aller plus. Tu vois. Donc, dans tous les cas, tu passes ton temps à faire des choix.
D'autant que même quand t'es pas dans ton optimum de compétences, rappelons que tu jettes un nez.
Et puis, comment dire? Dans le jeu de rôle, en fait, c'est le centre du jeu de rôle. Moi, c'est vraiment le truc important. D'ailleurs, si tu regardes les aphorismes qu'il y a dans le bouquin, il y en a plusieurs sur le choix. C'est le truc le plus important qu'il y a dans une partie de jeu de rôle, quoi. C'est le truc le plus intéressant pour les joueuses. C'est le MJ vous donne des trucs à faire et à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Et le combat tactique. C'est-à-dire le combat dans lequel tu vas effectivement pas faire une résolution générale, mais une résolution tour par tour avec qu'est-ce que je fais, comment je me déplace, comment je me pose, quel choix de me couvrir ou de tirer ou de etc etc ou d'aider mes copains etc. C'est en résumé plein de petits choix super importants tous et qui mènent à la résolution d'une scène. Dans lequel le moindre changement de choix en cours pourrait donner un résultat différent à la fin. Et ce qui est intéressant pour moi, enfin ce que j'aime, c'est que quand tu es sur un combat et que le temps est extrêmement court, tu fais donc plein de petits choix qui vont entraîner d'autres choix, etc. et qui vont créer une dynamique vers une résolution.
Mais du coup, c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est pour dire, ce moment-là est important dans ton jeu.
Bah, pour voilà. Moi, c'est pour.
Parce que sinon, tu aurais pu garder la même chose.
À ma table de jeu, c'est important. Voilà. Donc, dans mes jeux, c'est important.
En matière de game design, effectivement, ce que dit Flavie est très vrai. C'est-à-dire que ça montre que le combat est un moment particulier dans ton jeu. Donc,
le conflit, oui, mais toujours. Mais dans tous mes jeux, c'est-à-dire que. Il y a même des jeux qui tournent uniquement quasiment autour que de ça, quoi.
Moi, je pense que c'est la marque-là dans le système de résolution du fait qu'on est presque dans du... J'appelais ça du grume-feu noir. C'est sur ma petite feuille. C'est dans le roman policier, le moment de la résolution de fin, c'est le moment où on voit bien que même dans les films, la réalisation change. Et là, on a cette réalisation qui change. Tu as ton système pour faire du grume-feu noir.
Oui, mais c'est comme dans Tarantino où les mecs ils vont causer et puis au moment où ça flingue, c'est autre chose.
Yeah motherfucker, il faudra un système pour faire des grosses
non parce que là du coup, on rentrerait dans le pulp à la Die Hard, ouais, c'est pas ce qu'il veut, ce serait pas sérieux en fait.
Je le ferais, mais par exemple je bosse sur des jeux.
Je te demande de faire un jeu où on peut vous dire des gros mots, ça donne des points en plus.
Alors il faudra que à l'occasion je vous ferai jouer Daitoshi Underground Jaeger, qui est le projet en cours de développement, enfin un des projets en cours de développement, dans lequel les personnages sont des chasseurs de tueurs en série dans un Tokyo vaguement futuriste. Et c'est ultra violent. Alors, c'est ultra violent avec des scènes de crime horribles.
J'y ai joué.
Et des scènes de combat.
C'est du grim pulp noir violent.
Alors ça donne quoi ?
Du Grimfegger.
Ça donne quoi, Anne ? Rapidement.
Bon, moi, je trouve ça assez séduisant quand on aime ce genre de thématique, quoi.
C'est type quoi, en fait ? Ça ressemble à quoi en termes de film ou de...
Alors, en termes de film, c'est en lien étroit avec tout ce qui est univers de manga. Je dirais plutôt shonen, hein, pour ce jeu-là. Oui. Puisqu'il y a un travail capillaire à prévoir pour le personnage, hein, comme dans tout manga qui se respecte. Bon, c'est un peu pour la petite histoire, mais quand même, ça a son importance.
Voilà. En fait, le jeu est conçu comme étant tiré d'un manga paru il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années au Japon, et dont ce serait le JDR officiel.
officieux. Voilà. Mais t'as pas le droit.
Non,
parce
JDR
que
c'est... officieux. Non, c'est le JDR officiel d'un manga qui n'existe pas, mais dont dans le bouquin il y a une interview de la scénariste,
ah,
il y a
une
analyse de l'œuvre, il y a une analyse
d'accord.
de l'œuvre, une de et de, des codes de donc le jeu est présenté en présentant les codes du manga, comment il a été conçu, écrit, comment il présentait les héros ou pas, etc. Mmh. Et effectivement, il y a le côté manga hyper violent.
Donc vous décrivez voilà. du sang qui gît partout.
Voilà.
Enfin,
voilà.
Et puis il y a des
mais on
crimes,
tape des méchants donc tout va bien.
D'accord.
Puis,
okay.
puis voilà, ils enquêtent sur des crimes de serial killer avec des dégradations corporelles horribles, enfin voilà, c'est Bones, Meet Seven, Meet ce que vous voulez, enfin voilà, Jeffrey Dahmer et compagnie à fond les ballons quoi.
De quoi?
Comment elle s'appelle déjà la série sur la Netflix, série.
Netflix
sur les serial killers?
Ah! Oh bah merde, alors je sais plus.
Il y a une excellente série, je sais pas si t'as Netflix, à regarder sur les mecs du FBI qui ont créé en fait comment on poursuivait des serial killers.
Vous connaissez cette série.
Elle est très bien.
Mais par contre, ils n'ont pas de création capillaire, donc c'est un peu dommage.
Mais non, parce que ça se passe aux États-Unis. En fait, là, donc c'est un jeu sur lequel je bosse, là, et l'idée, c'est de prendre un Tokyo de 50 millions d'habitants. Là aujourd'hui on est à, le grand Tokyo c'est 35 millions donc on est un peu plus tard dans le futur mais on passe à 50 millions mais avec le taux de criminalité de Détroit donc 25 000 meurtres par an 100 000 viols et agressions sexuelles.
Il y a moyen que du coup ça, le taux de personnes de population baisse drastiquement
oui.
assez rapidement.
Oui mais pas tant que ça en fait
ils
et donc
choix, hein.
et on vivre. Murmure que plusieurs tueurs en série opèrent en même temps sur Tokyo et parfois même en coopération. Voilà et donc les personnages sont des chasseurs de tueurs.
Alors une des originalités du jeu du point de vue éditorial aussi, ce sont ces illustrations avec justement ces maximes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont écrites en grand dans le texte. Voilà, je sais pas, je peux en citer une. On rêve tous de changer le monde, laisser les joueuses y parvenir. Je peux en citer une autre. La maîtresse de jeu est la représentante de l'univers, mais pas son tyran. Qu'est-ce qu'on a ? Jouer, c'est transgresser, mais agresser n'est pas jouer. Enfin, des phrases comme ça. Pour garder l'autorité narrative, je l'aime bien celle-là, il faut savoir la partager. Enfin, donc, ces phrases, ces maximes, en fait, servent de règles pour le système de jeu, en fait. Tu vois, là, on a parlé beaucoup du système de résolution dans ce podcast, mais le système de jeu, donc, c'est-à-dire l'interaction que le maître de jeu, la maîtresse du jeu, pardon, doit avoir avec ses joueuses, est régulée et expliquée par ces grandes maximes, en fait, qui, ça, effectivement, c'est une des grandes originalités de ce travail, je trouve.
À la base, je voulais mettre un, je me disais, bon, des règles génériques. Justement, je suis un peu dans cette approche-là, les règles génériques, c'est pas l'anathème, mais fondamentalement, ça correspond pas à quelque chose. Donc du coup, j'ai vraiment réfléchi en me disant, ok, c'est des règles que je générise, mais pour faire quoi précisément avec ? D'où le dernier chapitre du jeu, là, c'est les deux pages qui expliquent l'ordre, la manière dont on doit utiliser le jeu. Et puis je me disais, sur un jeu comme ça, il serait bon... qu'il y ait un chapitre conseil à la maîtresse de jeu, ouais. conseil de jeu, etc. Et j'arrivais pas à l'écrire et tout ce que j'écrivais, je trouvais ça pontifiant, chiant. Enfin, de quel droit je peux écrire de la théorie et des conseils de jeu, quoi. Enfin, au sens où c'est valable à ma table.
Ah,
et en
ça.
Vérité, si tu regardes l'ensemble des parties que je fais toute l'année, très souvent, je balance mes propres conseils et je les utilise pas ou je sais pas les utiliser correctement.
Bah oui, mais en même temps, c'est en lisant ces conseils qu'on peut s'imaginer ce que c'est que d'être à une de tes tables. Donc en fait,
et du coup, je me suis dit, voilà, si j'essaie de les résumer sous la forme d'aphorismes courts, peut-être que j'éviterai le côté pontifiant. Voilà,
je trouve ça assez réussi parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que pour les gens qui connaissent très bien le jeu de rôle classique et qui le maîtrisent depuis des années, ce sont des aphorismes qui font réfléchir, même si on est maître de jeu depuis longtemps. Donc ça permet, pour quelqu'un qui a de la bouteille, en fait, ça lui ouvre des champs de réflexion. Le côté aphoristique, de toute façon, fait toujours un peu, koan, matière à penser, tu vois, ça invite forcément à réfléchir. Donc ça, c'est voilà, pour les gens expérimentés. Et puis pour les gens qui ne sont pas expérimentés, bah, finalement, c'est des règles très simplement énoncées qui, si elles sont respectées, donnent lieu à une maîtrise, on va dire, satisfaisante de ton point de vue. Donc,
normalement,
je trouve
oui,
ça assez, ouais. assez original. De quoi tu es particulièrement fier dans ce système? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit « Ok, je l'édite ». Parce qu'il y a quelque chose, il y a un truc que j'ai trouvé là-dedans. Je sais que t'es un mec comme ça. Il y a toujours une petite pépite, un petit truc qui fait que ça te pousse à l'édition, tu vois. Et tu te dis, ah ça, c'est le truc qui me donne envie d'éditer le jeu. Je me trompe ?
Alors,
chaque fois que...
Écoute... Ouais, alors, en fait, à la base, donc, le système, je l'ai écrit pour m'autoriser... Enfin, on a fini une campagne de Warhammer qui a duré un an et demi avec mon groupe habituel. Et on était fin juin, et je leur dis, bon, à la rentrée, vous voulez jouer à quoi? Ils me disent, ah, ce serait cool qu'on fasse du steampunk et tout. Donc, j'ai bossé. Donc, du coup, pour la rentrée, je leur ai écrit une campagne steampunk, et j'ai écrit les règles pour... voilà, donc je suis parti un peu de deux, trois idées que j'avais, et puis que j'ai essayé de... Puis ensuite, on a beaucoup... on a playtesté, on a modifié des trucs à la table de jeu au fur et à mesure... donc ça a été la base. Et puis,
Non mais d'accord, mais moi aussi je bricole des tas de trucs. Attends.
Et
non, moi aussi je bricole des tas de trucs, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné t'as envie de le rendre public?
Justement, donc, de toute façon, je pars du principe qu'à partir du moment où je bosse sur un jeu, vu que je suis mon propre éditeur, si effectivement ça fait le cut, c'est-à-dire si j'ai l'impression d'avoir que le jeu a quelque chose à dire ou qu'il est intéressant, etc. Je vais le sortir. Donc à la base, j'ai sorti le système de jeu parce que c'était celui que j'ai utilisé pour faire jouer à Rage Victoria et que donc il correspondait vraiment bien à l'ambiance que je voulais donner dans Rage Victoria. Puis ensuite, il y a des gens qui ont joué avec, qui s'en ont emparé. Quand on a commencé à travailler sur l'idée, donc j'ai fait plein de playtests extérieurs et j'ai confié une copie du jeu, enfin de la réécriture génériquée à des joueurs autres que je connaissais pas et qui m'ont fait des retours et on a modifié le jeu, on est revenu dessus, on a encore amélioré avec leur retour. Et puis moi j'avais commencé à écrire plein de trucs sur ce jeu. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire, il y avait des chapitres consacrés au médiéval fantastique, des chapitres consacrés au cyberpunk.
Tu l'avais pensé de base, de toute façon, pour un univers générique, quoi.
Ouais, et puis surtout la première rédaction, c'est me donner un jeu qui faisait qu'aurait fait 4 fois cette pagination là avec plein de conseils et plein d'idées supplémentaires et plein d'options dans tous les sens et plein de trucs. Mmh. Et en fait, à un moment donné, le jeu, il a juste bloqué. Et il est resté bloqué pendant quasiment un an. Parce que j'arrivais pas à écrire toutes ces pages de conseils, de trucs. J'avais le plan, mais le contenu était pas intéressant, quoi. Mmh. Et je l'ai repris un peu par hasard parce que j'avais besoin de faire une sortie, parce que j'avais envie de rejouer avec, etc. Et en le reprenant au bout d'un an sans avoir travaillé dessus, je me suis rendu compte que c'était juste plein de scories, plein de trucs lourds, plein de poids qui ne servaient à rien. Et j'ai coupé partout, mais vraiment coupé partout, ce qui m'a amené à trouver de nouvelles options de jeu beaucoup plus intéressante, beaucoup plus simple, et à faire un bouquin de 60 pages au lieu d'un bouquin de 200, quoi. J'ai coupé. Et quand j'ai eu fini de couper, tout d'un coup c'était bah ouais, c'est bon. Et il m'a fallu 2 jours pour tout couper, pour que le jeu accède à cette forme finale très légère. Et ça a été 2 jours où j'ai juste enlevé, en fait.
Donc en fait, c'est la légèreté, quand j'étais jeune créateur de jeu et que j'étais venu te voir, n'est-ce pas, tu m'avais dit, le plus difficile dans l'écriture, c'est la simplicité. Ça m'a marqué vraiment, cette phrase m'a marqué. Et là, tu dirais en fait que sur ce jeu, c'est un peu ça, quoi. T'as réduit en fait le jeu à sa quintessence, qui t'a motivé à le publier.
Le fait que j'avais besoin d'une sortie pour avoir des sous. C'est aussi une grosse motivation, hein, toujours.
Okay, ouais,
mais parce que voilà, et on a une nécessité aussi de produire et de faire des choses bien, hein. On va pas sortir des bouquins bâclés, mais voilà. Et mais cette leçon là c'est quelqu'un d'autre qui est un auteur de romans et de pièces de théâtre et tout.
Waouh, il y a un mec qui est en train de jouer dehors, mais ouais.
Qui m'avait dit, en fait, le plus difficile, c'est... Enfin, quand tu écris, tu mets des échafaudages. Et la dernière opération que tu dois faire, c'est d'enlever les échafaudages dans l'écriture. Donc d'enlever tout ce qui dépasse et tout ce qui n'est pas utile et tout ce qui t'a servi à arriver à construire ton truc, mais qui maintenant doit disparaître. Et beaucoup d'auteurs n'enlèvent pas leurs échafaudages, en fait. Ils les laissent parce qu'ils considèrent que ça fait partie de l'architecture finale, quoi. Sauf qu'en vrai, c'est juste un échafaudage. Si tu l'enlèves pas, tu montreras pas la belle façade que tu as réussi à créer derrière, quoi. Ou le beau bâtiment que tu as réussi à construire. Donc, et c'est vrai que sur ce jeu-là, ça a vraiment été... Mais c'est un truc auquel j'essaie de m'astreindre vraiment sur mes projets perso depuis un moment. T'écris des trucs un peu au kilomètre, et puis à un moment donné tu reviens dessus et tu sabres. Ok, t'as une belle formule qui sonne bien. Ouais, mais si à voix haute tu te rends compte qu'elle te rajoute une respiration en plus qui n'était pas. Parce que relire les textes à voix haute, même les textes de règles, c'est vachement bien. Hein.
Ouais, moi je le fais régulièrement. Fly m'entend.
façon le gueuloir de Flaubert.
Oui.
Voilà. C'est chiant. Ouais.
Mais c'est un super exercice hein, de lire à haute voix ce que tu écris. Parce que t'entends les rythmes. T'entends les répétitions, t'entends les assonances, t'entends. Puis tu corriges tout ça jusqu'à obtenir un truc, même pour des règles. Tu finis par obtenir quelque chose qui est agréable à l'oreille, donc qui est agréable à lire et donc qui est simple à lire. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut commencer par écrire beaucoup. Puis après, il faut sabrer et faut pas chercher à se faire plaisir, en fait. Parce que si tu cherches à se faire plaisir en gardant les belles formules et les beaux trucs dont tu es super fier parce que sur le coup tu étais trop content d'avoir trouvé une idée, au final tu rends service à personne, quoi. Surtout pas ton texte.
Je dis pas tout à fait la même logique, mais enfin bon, c'est intéressant de t'entendre et de voir tes analyses. Bah merci LG, je suis un peu la prochaine fois, parce que là c'est moi en fait, j'avoue, c'est moi qui suis venu avec Cerber dans la poche. J'avais vraiment envie de tester le jeu, parce que c'est celui que j'ai, le dernier jeu de Grumpf que j'avais testé. Et puis en fait j'arrive ici et puis il me montre plein de super trucs. Couverture cartonnée et tout, bah regarde, j'ai fait ça aussi, j'ai fait ça, et là tu viens avec Cerber, c'est mon plus petit jeu de ces derniers temps et tout. Et je fais, bah oui, mais j'étais pas au courant en fait de tes sorties. Il faut que tu trouves un moyen
On va trouver un moyen.
Ouais. Il faut trouver un moyen parce qu'en fait, tu vois, je suis passé complètement à côté. Là, par exemple, moi, je croyais que c'était ton dernier.
En un an, j'ai sorti que 4 jeux, donc c'est pas non plus. Par rapport aux 10 de l'année précédente.
Oui, je comprends.
J'ai un peu réduit la voilure, forcément. Ouais. Mais les jeux étaient plus gros, plus massifs, plus longs à écrire, traduire, illustrer. Enfin, ça m'a pris plus de temps, quoi.
Ouais, pour la prochaine fois, je ferai mes devoirs. Je vais lire Le Vaste Monde. Et puis, on en fera une belle partie.
Et puis, elle a l'air cool. Ouais. Moi, je suis assez impatiente de lire aussi.
Ouais. Comme je disais, Le Vaste Monde, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de... peut-être 10 ans de boulot et beaucoup de tests.
T'as l'air d'en être beaucoup plus fier. Je suis désolé, je m'excuse d'être arrivé avec ce jeu.
Je suis fier de Cerber parce que je trouve qu'il...
Il fonctionne très bien.
Je trouve qu'il fonctionne super bien. Et puis, je pense qu'il y a plein de trucs que vous avez, plein de petites subtilités que j'ai pas pu mettre en œuvre ou très peu.
Ouais.
Mais le fait que, voilà, si ta compétence, elle te sert pas complètement ou ta maîtrise, etc., ça te rapporte pas le dé complet, mais seulement un avantage. Enfin, tu vois, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de faire jouer les désavantages parce que ça vient plus, avec un peu plus de jeu.
Mais tu vois, moi, j'aurais une critique de fond à faire à Cerber. C'est qu'en fait, tu vois, tu dis c'est un système générique. Mais en fait, c'est pas un système générique. C'est un système de résolution générique. Et c'est pas la même chose. Ça gère en fait les...
Oui. Mais c'est des mécaniques. Mécaniques pseudo-génériques, puisqu'en plus, c'est même pas générique au sens où tu feras pas du pulp avec et tu feras pas de
presque générique. Il s'est protégé.
Pour moi, c'est vraiment pour faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, du grume feu noir. Il y a un certain type de choses qui correspondent à un certain canon. Tu peux pas du tout masteriser... une histoire où on est autour de la table et où il se passe un truc dans la famille
Tu connais Valentin T qui intervient de temps en temps dans les micros de la cellule. Il a une théorie en ce moment sur le jeu qui me plaît beaucoup, c'est que quand on lance les dés, on joue pas. C'est-à-dire en fait l'idée c'est que si je lance les dés, c'est je laisse le dé prendre la décision. Or, comme le jeu, c'est justement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est faire des choix, en fait. Bah, le moment où on lance le dé, on joue pas, en fait. On attend le résultat du dé pour savoir comment on va jouer après et qu'on nous fournisse du matériel pour jouer. Et donc, j'ai envie de dire, en fait, que tu vois, Cerber, là, tu as donné tout ce avec tout, tu décris tous les moments pendant lesquels on ne joue pas dans le jeu et qu'en fait, tout ce qui se joue, c'est ce qu'il y a autour, en fait, tu vois.
Alors, je suis pas... Alors, pour le coup, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord.
Justement, c'est pour ça que je te parle.
Non, je suis pas d'accord.
J'étais sûr que ça allait t'énerver.
Là, par exemple, tu vois, il y a...
T'énerver, parce que j'ai entendu qu'il pouvait s'énerver dans la cuisine tout à l'heure.
Ouais, moi aussi, c'était ouf, je vous jure.
Incroyable.
Gruff n'est pas toujours calme, en fait. Des fois, il peut s'énerver. Mais nous, on était persuadés
qu'il... Il nous a dit de pas en parler dans les micros. Yeah.
Ah, c'était un énervement très léger. Hein,
mais le... Non, parce que quand je suis très énervé, je casse des portes, donc ça marche pas. Le truc, c'est que dans quasiment tous mes jeux depuis longtemps maintenant, il y a un truc que je mets qui s'appelle la règle d'or.
Voilà.
Et alors moi, c'est ma règle d'or et que j'utilise à ma table depuis très très longtemps, que mes joueurs quand ils maîtrisent utilisent maintenant. Et qui est un truc tout bête, c'est quand la maîtresse de jeu ne sait pas ou ne veut pas choisir, donner une réponse, ou voilà, par exemple, est-ce que le train arrive à temps pour qu'on puisse aller au magasin central, ou est-ce qu'il arrive après la fermeture du magasin central ? Moi, MJ, qu'est-ce que j'en ai à faire que le magasin central soit ouvert ou fermé ? Donc, je lance un dé. 1, 2, 3, je lance un des 6. 1, 2, 3, le magasin est fermé. 4, 5, 6, le magasin est ouvert. Ouais. Moi, je choisis rien. Parce que les deux cas,
justement,
c'est intéressant. S'il est ouvert, les joueurs vont pouvoir faire un truc. S'il est fermé...
Que dit Valentin. Quand tu lances le dé, c'est un non-choix.
C'est un non-choix, mais c'est un choix narratif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un non-choix conscient. Mais je fais le choix de ne pas décider. Je lance le dé. Le dé me dit que les circonstances, à partir de dans l'histoire, les circonstances diégétiques vont être de telle nature. Mmh. Et à partir de là, l'histoire part dans un sens.
Mais bien sûr, c'est ça. Et mais c'est ce qui se passe après le lancer de dé.
Oui, mais non, parce que le lancer de dé qui crée cette situation diégétique, il est intéressant en soi. Quand tu lances un dé et que tu fais une réussite exceptionnelle... Mmh. Parce qu'à un moment donné, tu t'es mis dans la position de lancer le dé, et pas simplement ou que le MJ t'a mis dans la position de lancer le dé, où t'as pas simplement dit oui, non, par rapport au truc, c'est du même truc, c'est du même effet. C'est-à-dire, là, j'ai pas envie de prendre une décision, parce que, en vérité, tous les résultats, toutes les décisions que je pourrais prendre
sont
ont un intérêt diégétique égal.
Égal. Mmh.
Donc, je ne choisirai pas.
D'accord.
Et ça rejoint le truc de tout à l'heure du « je te fais pas lancer les dés, tu trouves l'indice ». Parce que il n'était pas également intéressant que tu trouves l'indice ou que tu ne le trouves pas.
Oui,
il était intéressant que tu trouves l'indice, ouais. Tu ne l'aurais pas trouvé, ça m'aurait foutu dans la merde en termes de temps de jeu, ça aurait mis une demi-heure de plus dans le jeu, etc. Ouais. Donc diégétiquement, ça n'était pas intéressant que je te fasse faire un jet que tu puisses rater.
T'es en train de reconnaître que tu ne fais lancer les dés que quand... Les choix sont...
Je fais lancer... En gros, si un joueur me
C'est-à-dire
dit...
que quand je lance les dés, en fait, ce qui compte, c'est le résultat que vont me fournir les dés. C'est de l'aléatoire... Enfin, c'est comment dire ? C'est de l'aléatoire entre des choix également intéressants. Voilà,
c'est de l'aléatoire entre des choix également intéressants. D'accord ? Mais...
Si je rate, c'est intéressant. Si je réussis, c'est intéressant.
Mais toujours avec l'idée... Et ça, c'est, pour moi, c'est hyper important par rapport à d'autres systèmes, justement, que je joue et que j'aime pas trop, avec l'idée que moi, MJ, le choix est également intéressant pour tout, c'est pas forcément le cas pour le joueur.
Pour le joueur.
Donc, le système de jeu, si le système de jeu est juste, à un moment donné, un aléatoire, ou même pour le joueur, finalement, toutes les réponses vont être les mêmes, enfin, également possibles, le joueur, ça l'intéresse pas, parce que lui, il veut un truc en particulier. Le MJ, il est prêt à prendre toutes les conséquences parce que toutes seront intéressantes. Le joueur, il peut avoir envie de plutôt de telles conséquences qu'une autre. D'où l'intérêt que le système de jeu lui permette au joueur ou à la joueuse de manipuler suffisamment, disons, de faire jouer suffisamment son esprit et son intellect pour dire au MJ, oui, mais si j'utilise tel truc, oui, mais si je me mets dans telle situation, oui, mais si je fais attention à tel truc, alors je peux manipuler suffisamment les probabilités pour que j'ai plus de chances d'obtenir une conséquence diégétique qui me favorise ou qui me plaise ou qui m'intéresse moi, même si toi, MJ, en fait, tu serais tout aussi ravi que je réussisse ou que je rate.
Très bien.
Tu vois ?
Alors, je ne vais pas parler à la place de Valentin, mais par contre, je sais que Valentin est vraiment adore ton travail. Il me dit « Ah, les podcasts avec LG, c'est du pain béni pour moi, etc. » Et donc, du coup, parce qu'il adore l'OSR et il aime beaucoup les théories autour de l'OSR, il s'intéresse également à toutes les théories, d'où qu'elles proviennent. Donc, la prochaine fois, quand tu viendras à la Baro, j'essaierai de faire en sorte que Valentin soit là et on organisera un débat sur ce sujet entre vous pour voir ce que ça donne, parce que je pense que ça peut être très intéressant de nous faire dialoguer sur ce sujet. Voilà, ceci en conclusion, parce que malheureusement, nous, on doit quitter le terrier. Il va être l'heure de partir pour nous. Merci LG,
merci
Anne,
Grume, merci
Morgane.
Merci Anne.
À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien.
Je vous dis au revoir.